Alors, Romains chapitre 1, je vais lire du verset 20, 23. En fait, je vais commencer au verset 22. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Avant de regarder ce texte, j'aimerais le remettre dans son contexte. Ce que nous avions vu la semaine dernière, donc une petite révision des versets 18 à 21-22. Nous avons dit que cette épître de Paul est une analyse, enfin d'abord, c'est une explication de l'Évangile. Nous avons vu que beaucoup de personnes se sont converties au cours de l'histoire en lisant cette épître de Paul aux Romains, parce que c'est là qu'il explique vraiment l'Évangile en long et en large, en commençant avec le titre « Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit ». Mais pour croire, pour savoir ce que c'est que le salut, parce que le salut c'est être retiré d'un danger, il faut savoir quel est ce danger. Donc il faut faire cette analyse de la condition humaine, qu'est-ce qui ne va pas? Et qu'est-ce qui ne va pas, selon le verset 18, c'est que les hommes étouffent la connaissance de Dieu, ou, selon notre traduction, retiennent captive la connaissance de Dieu. Là, ils retiennent injustement la vérité captive. Et il y a deux conséquences de cela. C'est que d'une part, la colère de Dieu se révèle. Et on avait dit que la colère de Dieu, c'est sa juste indignation face au mal qui le pousse à châtier le coupable de façon juste, comme un juge juste aujourd'hui. Et deuxième chose, c'est que les hommes, les êtres humains, sont inexcusables parce que finalement, ils savent que Dieu est là et c'est les humains qui étouffent cette connaissance. Alors, la suite de cela, pourquoi ils sont inexcusables? Parce que nous avons vu que Dieu se manifeste à travers la création. Ce sont les versets 19 et 20. Et il dit, ce que l'on peut connaître de Dieu, on le voit dans la création, dans ses œuvres, depuis la création. Et ce que l'on comprend, d'après Paul, c'est que Dieu est parfait, il est invisible mais parfait, qu'il est puissant et éternel, et qu'il est au fond Dieu. Et c'est évident, quand on regarde la création, qu'il doit y avoir, en quelque sorte, comme on dit, une cause première. Quand on voit un ordinateur là, on dit, tiens, le hasard fait bien les choses, hein. Ces petits bouts de métal sont mis ensemble, donc comme ça. Et quand on voit le monde, on dit, voilà, il y a quelqu'un qui l'a créé. Et la faute des êtres humains, et là on est dans l'analyse, c'est que, sachant que Dieu est là, ils lui ont pas rendu grâce. Enfin, ils se sont déclarés autonomes en quelque sorte. Ils sont suffisants à eux-mêmes, donc ils n'ont pas rendu grâce. Par conséquent, les hommes, verset 22, sont égarés dans leurs pensées, ils ne sont plus capables de penser de façon juste. Je pense à l'introduction d'un livre que je possède sur la théologie qui dit... Penser bien aujourd'hui est difficile. penser tout court, ça fait de plus en plus rare. Mais penser bibliquement, c'est nous qui devons le faire. Parce que après notre conversion, il veut changer notre pensée. C'est Romains 12 qui le dit, hein, donc on anticipe sur ce qu'on va voir vers l'an 2017 ou 2018, à cette vitesse-là. C'est que nous devons être transformés par le renouvellement de l'intelligence quand on se convertit. Donc on va essayer de réfléchir bien. Alors que cette analyse, c'est que les hommes sont égarés dans leur pensée et, verset 22, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. J'ai failli donner d'ailleurs à ce message le titre « Ils ne vivent plus dans le réel ». Finalement, les hommes ne vivent plus dans le réel. J'ai donné un autre titre que j'ai zappé assez vite. Dieu les a livrés, donc on va revenir à ça. Mais les hommes ne vivent plus dans le réel. C'est ça l'analyse biblique. Donc c'est à partir de là que l'on va continuer maintenant avec ce thème. Et on va voir qu'ils ne vivent plus dans le réel à deux niveaux. Donc on part de deux péchés. C'est d'une part l'idolâtrie et d'autre part l'homosexualité. Ce sont les deux manifestations que Paul mentionne donc, après cette analyse. Et nous voyons donc le verset 26, cette expression que j'ai mentionnée tout à l'heure, c'est pourquoi Dieu les a livrés. C'est-à-dire, la colère de Dieu se manifestera à la fin, au dernier jour, le jugement dernier, par un jugement, qu'on veut dire, actif. Mais son jugement se manifeste déjà en ce que Dieu dit, je laisse faire. Et ils vont récolter en quelque sorte le fruit de cela. Donc Dieu les a livrés, autre traduction, abandonnés au penchant de leur cœur. Donc, première chose, l'idolâtrie. On le voit au verset 23. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. Et puis le verset 25 également. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont adoré et servi la créature au lieu du créateur. Donc ça veut dire que qu'est-ce qui est au centre? C'est l'homme. On parle de l'humanisme. C'est l'homme qui est au centre. L'homme est la mesure de toute chose. C'est un philosophe de l'Antiquité qui l'avait dit. Donc, qu'est-ce qui devient central dans l'univers? Ce n'est plus Dieu, c'est l'homme. Et on adore et on sert l'homme avant d'adorer et de servir Dieu. Et ça s'appelle l'idolâtrie. Et cette idolâtrie se manifeste à certaines époques, dans certaines cultures, par des statues, par des peintures, on se prosterne devant des représentations comme cela. Donc aujourd'hui, cette idolâtrie se manifeste peut-être de façon autre en France, mais on est toujours idolâtre devant certains idoles, justement, on parle d'idoles, de chansons, etc. Devant l'argent, devant le succès, devant plein de choses. Donc l'idolâtrie, c'est la première conséquence du rejet de Dieu. Parce que bizarrement, quand les gens n'adorent plus Dieu, ils adorent n'importe quoi d'autre. L'adoration n'arrête pas. Mais alors, au lieu d'adorer Dieu, on adore des choses créées, plutôt que le Créateur. Donc, c'est pour ça que le plus gros péché qu'on puisse imaginer, c'est cela. C'est ne plus adorer Dieu. Et la deuxième chose que Paul mentionne, c'est donc l'homosexualité. Et avec un vocabulaire qui peut étonner de nos jours. Je retiens dans les versets 24 à 27 ces mots: impureté, les convoitises du cœur, déshonorer son corps, passion infâme, l'usage naturel changé en contre-nature, enflammés dans leurs désirs, des choses infâmes, recevant le salaire que méritait leur égarement. Ça, c'est la version seconde. Si je prends le semeur, on a pratique dégradante, passion de leur cœur, avilir leur propre corps, passion avilissante, relations sexuelles naturelles échangées contre des pratiques contre nature, enflammées des désirs, actes honteux, et les hommes ont reçu le salaire que méritaient leurs égarements. C'est un vocabulaire très fort et on peut se poser la question pourquoi? En fait, en quelque sorte, on va dire le refus de Dieu et le dérèglement moral va ensemble. On ne peut pas les séparer. On ne peut pas les séparer. Parce que tout est un système en quelque sorte. Religion et éthique, c'est un système. Et c'est une question de dynamique et de cohérence. Et là où souvent le dérèglement se manifeste le plus, c'est dans le domaine de la sexualité. Ce qu'un auteur a appelé que la sexualité est une zone à haute tension, en quelque sorte. Parce que quand il y a refus de Dieu, c'est dans ce sens-là que ça se manifeste. Je vous ai déjà dit que je suis en train d'écrire un livre sur l'athéisme, et quand on voit certains auteurs, je pense à Michel Onfray, la moitié de son livre est sur l'athéisme, peut-être même pas la moitié, et de l'autre côté, c'est sur ce qu'on appelle, il est hédoniste, il se dit hédoniste. Donc, il dit que la religion, c'est le refus du plaisir, le refus de la femme, le refus de la sexualité, ce qui est complètement faux. Mais ce qui est vrai, c'est que devant Dieu, il y a des limites. Et c'est dans ces limites que on pratique la sexualité. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a le même mot qui revient trois fois. Le mot changer. Ou dans certaines traductions de la Bible, échanger, qui veut dire, enfin, troquer en quelque sorte. Le verset 23, ils ont changé la gloire de Dieu en image représentant l'homme. Donc ils ont troqué la gloire de Dieu pour des images. Verset 25, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont échangé la vérité. Le mensonge. Et le verset 26, ils ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Donc c'est pour cela que l'on voit avec cette notion d'échange ou de troc en quelque sorte que l'idolâtrie et l'homosexualité a quelque part les mêmes racines et on peut l'exprimer de la façon suivante. L'homme exprime dans l'idolâtrie, exprime son besoin d'adorer en échangeant cette adoration pour adorer l'homme plutôt que Dieu. Dans l'homosexualité, l'homme reconnaît son besoin de l'autre, parce que Genèse 2,18 a dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Mais il échange cela, donc la complémentarité, pour s'unir à son semblable, en quelque sorte. Donc dans les deux cas, on a échangé une chose pour une autre, l'adoration de Dieu, l'adoration des idoles, l'amour pour quelqu'un du sexe opposé contre l'amour de quelqu'un du même sexe. Et Jacques Buchholz, dans le livre publié au GBU, L'Évangile, le message honteux, conclut, parce qu'il explique cela aussi, en disant: ce que les uns recevront comme une scandaleuse intolérance, les autres l'entendront comme un langage de vérité. Et là, c'est l'enjeu. Est-ce que c'est scandaleusement intolérant ou est-ce que c'est le langage de la vérité? Et je vais tout à l'heure, tout à la fin du message, revenir à cela pour essayer de mettre le doigt vraiment sur le véritable enjeu. Cela dit, maintenant que l'on a parlé de cela, on va commencer la conclusion. Pour essayer de dire, mais qu'est-ce qu'on pense de tout cela? Comment on peut le réfléchir dans le contexte contemporain? Parce que je ne voudrais pas être mal compris. Il est évident, même avec ce que je vais dire maintenant, je ne peux pas tout dire, je ne peux pas couvrir le sujet complètement. Mais je pense qu'il est quand même utile d'ajouter un certain nombre de choses. Et surtout, j'aimerais dire ceci. Qu'il faut faire la différence entre l'analyse du monde et le vécu des personnes. Je me suis permis ce mot englué dans cette situation. Ça fait deux. Jusque-là, on a parlé de l'analyse. Pourquoi c'est comme cela, profondément. Donc ça, c'est pour comprendre le monde, pour qu'on cherche le salut, le pardon de Dieu, la vie éternelle. Maintenant, sur le plan humain et pastoral, on a affaire à des personnes qui sont dans cette situation et comment on va faire pour aider des personnes qui sont dans cette situation. Est-ce que vous voyez la différence? Parce que quand on cherche quelque part, même, pour le dire d'une autre façon, parfois on cherche les causes de quelque chose. Et quand on lit les livres, j'ai lu pas mal à ce sujet cette semaine pour préparer cette prédication. Les avis sont même partagés sur les causes de l'homosexualité. Certains vont dire parce que la mère était trop forte et la mère était trop faible. Quelqu'un va dire le père était trop présent et après les gens vont dire le père était trop absent. Donc c'est difficile parce qu'il y a toutes sortes de théories pourquoi c'est comme ça. Mais cela ne remet pas en cause l'analyse profonde que ça vient du rejet de Dieu. C'est simplement pour dire que dans notre monde, il y a des explications de deuxième niveau. Je donne un autre exemple. S'il y a des guerres, c'est parce que l'homme s'est détourné de Dieu, donc c'est la même analyse. Mais la raison pour laquelle une guerre peut s'éclater, c'est parce qu'il y a des jeux d'alliance, comme la Première Guerre mondiale, parce qu'il y a des questions de territoire, peut-être qu'il y a des ressources naturelles qu'un pays veut chez un autre. Enfin, il peut y avoir d'autres explications, si on veut, humaines. Mais n'empêche, derrière ces explications, il y a le fait que l'être humain s'est détourné de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est la même chose pour l'homosexualité. Il peut y avoir des causes secondaires, mais notre analyse biblique, c'est parce que ça découle du fait que les êtres humains ont rejeté Dieu. Et donc, j'aimerais beaucoup plus parler maintenant de cet aspect humain et pastoral, en se rappelant ce verset qu'on avait déjà vu la semaine dernière, quand Jésus a dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Donc, on se souvient que nous sommes tous pécheurs. Donc, quatre réflexions d'abord, et puis une autre réflexion après. Quatre réflexions. Première chose, Romains chapitre 1 n'est pas le dernier mot. Apôtre Paul, est-ce que c'est votre dernier mot? Non, c'est pas son dernier mot. Il y a autre chose qu'on peut dire. Et notamment, il faut dire qu'à partir du chapitre 3, verset 21, jusqu'à la fin du chapitre 4, il y a le salut. Et du chapitre 5 jusqu'au chapitre 8, il y a la sanctification, dont on a un peu parlé ce matin, être irréprochable. Donc, ce n'est pas encore le dernier mot. Mais c'est un premier mot, et un mot important, parce que comme on a vu la semaine dernière, bon, on a changé de page, mais ce n'est pas grave. Jésus a dit qu'il n'est pas venu appeler ceux qui étaient bien portants, mais les malades. Et la première étape point malade, c'est le bon diagnostic. Donc Romains 1 donne le bon diagnostic. C'est parce qu'on s'est détourné de Dieu, mais ce n'est pas le dernier mot, parce qu'après, il y a le salut et le changement et la sanctification. Okay? Deuxième réflexion. L'homosexualité fait partie d'une longue liste de péchés qui continue à partir du verset 28 que nous verrons par la suite. Mais il y a toute une liste de cupidité, de malice, envie, meurtre, querelle, ruse, rapporteur médisant, impie, arrogant, hautain, rebelle aux parents, dépourvu d'intelligence, etc., etc. Donc, il faut aussi se dire que l'homosexualité n'est pas le péché au-dessus de tout autre péché. Parce que le verset 32 dit que Dieu déclare digne de mort les gens qui commettent de telles choses, y compris simplement la jalousie, ou être rapporteur. Hein? Et donc ça nous empêche de se sentir un peu supérieur pour dire « Ah, les homosexuels, c'est le pire ». Non, mentir, être jaloux, être arrogant, Dieu le déclare aussi digne de mort. Donc il faut le mettre dans ce contexte-là. D'ailleurs, au chapitre 2, verset 1, il va jusqu'à dire « Ô homme qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. » Parce que nous sommes tous pécheurs. Okay? Deuxième réflexion. Donc pas de sentiment de supériorité. Troisième réflexion. Mais malgré tout, un chrétien ne peut pas dire que l'homosexualité est entre guillemets, normal, parce qu'ils sont obligés d'affirmer que l'homosexualité est un péché. Et les chrétiens refusent la critique d'homophobie en disant que quelque chose est un péché. D'ailleurs, si on dit à quelqu'un, j'ai eu l'occasion récemment de parler avec quelqu'un un peu à ce sujet, que l'adultère est aussi un péché, la personne, c'est un peu fâché quand même. C'est pas que l'homosexualité. Hein. Quand j'ai dit que c'est un péché. Donc, Romains 1, le verset 32, nous le rappelle en disant que non seulement Dieu déclare juste ceux qui font des choses, mais aussi ceux qui approuvent ceux qui les font. Donc on ne peut pas approuver. On ne peut pas approuver, mais ce n'est pas homophobe. Parce que, comme nous allons voir tout à l'heure, nous voulons quand même aimer notre prochain. Et quand Jésus dit « aime ton prochain comme toi-même », il n'y avait pas de petit astérisque à côté avec un renvoi en bas de page qui disait « sauf les homosexuels ». Ce n'était pas dit dans le texte. C'est « aime ton prochain ». Donc, quatrième réflexion. Qui est justement dans ce sens, c'est une citation de Éphésiens 4:15 qui dit que nous devons exprimer ou professer la vérité dans l'amour. Et donc, il faut absolument éviter deux erreurs quand on parle de l'homosexualité. D'un côté, le rejet de l'homosexuel en tant que tel, l'homophobie si on veut, un manque d'amour envers la personne qui est homosexuelle. Mais de l'autre côté, de brader la vérité à cause de l'air du temps et de ne pas dire que c'est un péché. Donc, nous devons aimer les homosexuels tout en disant que pour Dieu, pour la parole de Dieu, c'est un péché. Alors, Je lisais cette semaine un texte qui a été proposé par la commission d'éthique protestante évangélique. Hein. Vous pouvez le trouver sur Internet hein, si vous tapez CEPE, hein, commission d'éthique protestante évangélique. Et là, il y a toute une déclaration qui revient sur pas mal de sujets. Mais il conclut quelque part par rapport à ces deux points. Hein. Donc, ne pas céder à l'air du temps. Mais en même temps aimer son prochain homosexuel en disant ceci. Tenter de répondre à de telles questions est similaire à une marche dangereuse et fatigante sur une ligne de crête. Il se peut que nos lecteurs aient parfois l'impression que nous ayons penché, voire dérapé, d'un côté de la montagne ou de l'autre. Il se peut qu'ils aient raison. Parce que ce n'est pas facile, en quelque sorte, de bien vivre ce que l'on dit souvent, c'est qu'il faut, aimer le pécheur, mais détester le péché. Et donc, nous devons vivre avec cela. Donc, c'est sur la ligne de crête, hein, on peut tomber d'un côté, on peut tomber de l'autre. Donc, la commission d'éthique a parlé de ligne de crête. Martin Luther, le réformateur, avait dit que c'est comme si on tombe d'un côté d'un cheval ou, ou de l'autre. Mais bon, c'est on peut dire la même chose. Alors, maintenant, que faire face à cela? Que faire et que penser? Je vous propose là encore trois choses avant la vraie conclusion. La première chose, attention aux étiquettes. Moi, je pense personnellement que c'est dangereux de désigner quelqu'un en disant « c'est un homosexuel ». On peut dire « c'est quelqu'un qui a cette identité ou qui a des penchants », je ne sais pas, faut trouver la façon de dire. Pourquoi? Parce que c'est comme si toute l'identité de cette personne tourne autour de cela, et c'est faux. Cette personne est enfant de quelqu'un, cousin de quelqu'un, citoyen, boulanger, joueur de volley, jovial ou taciturne, matinal ou couche-tard, maigre ou obèse, jeune ou moins jeune, amateur de bon vin, supporter du PSG, peut-être. Donc, il est plus que simplement homosexuel. Et je crois que nous ne rendons pas service aux gens de mettre l'étiquette sur quelqu'un de cette façon-là, comme si on a tout dit sur la personne. C'est un aspect de sa vie, alors que c'est une personne, par ailleurs, qui a beaucoup d'autres identités, en quelque sorte. Je crois que c'est important, et je crois qu'on rend service, en quelque sorte, au monde, à la société, d'éviter de mettre l'étiquette comme si on avait tout dit sur la personne, qu'on a dit « c'est un homosexuel ». Deuxième chose, c'est que je pense que c'est quelque chose, et c'est une idée qui fait son chemin un petit peu, c'est que il y a plusieurs niveaux différents d'homosexualité. Donc là, je tire d'une déclaration qui avait été faite par l'Alliance évangélique britannique, qui a fait cette analyse en se basant sur des sociologues. C'est-à-dire qu'il y a différents niveaux. D'abord, on peut dire l'attirance qui échappe un peu au contrôle de la personne, des sentiments plus ou moins durables, plus ou moins limités dans le temps. Il se peut que quelqu'un qui passe par un moment difficile d'adolescence, je ne sais pas quoi, pendant quelques semaines, soit attaché à quelqu'un alors que c'était complètement éphémère et ça n'a rien de particulier. Ou on parle des fois de personnes en prison, par exemple, qui sont privées d'une vie normale. Bon, ça c'est une certaine attirance. Mais deuxième niveau, c'est quand la personne qui a cette attirance, a une perception qu'il s'agit d'un schéma plus fixe, quelque part. Ce n'est pas éphémère. Troisième niveau, c'est l'identité, où il va, à partir de cette orientation, se donner un peu plus l'identité homosexuelle, et à ce moment-là, on parle de coming out. Donc, il le dit à d'autres, à ce troisième niveau. Le quatrième niveau, c'est le comportement, c'est-à-dire que l'activité sexuelle qui est attachée à cette identité. Parce qu'il peut y avoir des personnes qui sont homosexuelles, mais sans activité sexuelle. Et le cinquième niveau, c'est le militantisme, Là, ce sont des personnes parfois dans les lobbies qui voudraient faire passer des éléments de législation, etc., et qui vont plus loin que simplement le comportement. Ça devient, ils sont militants dans ce sens-là. Et je crois que j'ai déjà rencontré des personnes qui disaient, bon, je pensais que j'étais homosexuel, mais je me suis converti, et en fin de compte, bah, pas plus que ça, c'était l'air du temps, ça faisait bien de le dire un petit peu dans mon milieu, etc. Donc il faut aussi faire ce genre de distinction. Et l'autre chose, c'est alors que proposer à quelqu'un qui se dit homosexuel au moment de sa conversion. Je pense qu'il y a deux choses que l'on peut dire et je ne vais pas approfondir ce matin. Mais on peut dire d'abord que il y a des possibilités de transformation. Parfois ça peut être rapide, parfois non. Pensez à ce que j'avais dit par rapport à Alcoolique Anonyme, que parfois c'est aujourd'hui je vais vivre pour le Seigneur. Je ne peux pas, donc le demain ne m'appartient pas. Donc c'est aujourd'hui. Et quelqu'un qui est dans ce cas-là, il va dire, aujourd'hui, je me laisse transformer. Entre parenthèses, j'ai délibérément utilisé le mot transformer plutôt que guérison, parce que si on dit guérison, dans les milieux psychologiques par exemple, ils vont dire, non, l'homosexualité n'est pas une maladie. Donc si on utilise le mot guérison, ça peut être mal compris ou mal vécu. Si on parle de transformation, c'est autre chose. Surtout là où la personne veut être transformée. Je crois que c'est un droit. Mais l'autre aspect, c'est la chasteté, de ne pas s'adonner à des pratiques. Et là, on est exactement dans le même cas qu'un hétérosexuel qui se convertit et ne va pas pratiquer la sexualité autre part que au moment de son mariage dans son couple. Donc la chasteté, que ce soit pour un homosexuel ou un hétérosexuel, est la voie royale pour le chrétien. Et contrairement à ce que les gens peuvent penser, c'est certainement plus épanouissant que d'être dans des pratiques que l'on rejette au fond de soi-même quand on est chrétien, en fait. Donc voilà un certain nombre de réflexions et en conclusion, j'aimerais revenir un petit peu à cette histoire d'analyse avec laquelle je vais commencer pour comprendre le monde. Parce que dans cette analyse, il y a deux visions du monde et deux façons de vivre qui en découlent. On vit dans un monde sans Dieu ou on vit dans un monde avec Dieu. Quand on est dans le monde sans Dieu, on est dans exactement le cas de figure du psaume 14 qui dit « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Et l'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent et qui cherche Dieu. » Mais tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Donc, nous sommes tous pécheurs, mais j'ai l'impression que y a souvent ce rejet de Dieu pour se donner la raison pour faire ce que l'on veut, en quelque sorte. Mais en même temps, sans Dieu, tout d'un coup, en disant je peux faire ce que je veux, mais on se rend compte que les autres peuvent faire ce qu'ils veulent aussi. Donc il n'y a plus d'éthique, il n'y a plus de moralité. Et je ne sais pas si je l'ai déjà cité, mais c'est une citation bien connue du célèbre biochimiste Jacques Monod, hein, prix Nobel, qui dit ceci, donc, en parlant de l'époque actuelle, l'homme sait enfin qu'il est seul dans l'immensité indifférente de l'univers. d'où il a émergé par hasard. Ni son destin, ni son devoir n'est écrit nulle part. Alors ça, c'est la lucidité. S'il n'y a pas de Dieu, on est dans ce monde, on fait comme on veut. On profite des gens, on devient égoïste, parce qu'il n'y a plus de règles. Alors que nous, on dit, on vit dans un monde avec Dieu. Et le Créateur sait ce qu'il y a de mieux pour ses créatures, comme le fabricant pour ses machines. Il y a toujours le mode d'emploi, et notre mode d'emploi, c'est la Bible. Donc au fond, cette question-là revient toujours à la question de la foi en Dieu. Sans Dieu, on va dire que tout le monde a raison. Avec Dieu, Dieu a raison. C'est ça le véritable enjeu. Donc, quand on discute homosexualité, c'est pas la peine de dire à quelqu'un c'est bien, c'est mal en soi. La première chose, c'est de parler de Dieu et de prier que Dieu touche le cœur de la personne pour l'invoquer. Et à ce moment-là, petit à petit, les choses vont se mettre en place parce que la personne va comprendre que c'est devant ce Dieu. Il y a des actions qui sont agréables à Dieu et des actions qui ne le sont pas. Donc finalement, c'est l'évangélisation qui est le plus important dans un premier temps. De savoir que Dieu est là, qu'il est notre Père, comme on a dit ce matin. Et c'est dans ce sens-là que je propose que l'on chante un chant pour terminer. C'est le 274, « Ô Dieu puissant ».